Un grand merci à nos musiciens de nous avoir conduits dans ces chants. Je vous invite, vous, à chercher la première lettre de Pierre, 1 Pierre. Et nous allons lire maintenant le premier chapitre. On commence une nouvelle série où nous allons parcourir cette lettre. Et donc, dans la suite des chants que nous avons chantés, voici comment Pierre encourage les chrétiens avec ce beau message d'espérance. Lisons 1 Pierre, chapitre 1. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, et qui sont élus selon la préscience de Dieu le Père par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Il vous est réservé dans les cieux, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Vous l'aimez sans l'avoir vu, vous croyez en lui sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie merveilleuse et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Ils voulaient sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses, que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel et dans lesquels les anges désirent plonger leurs regards. C'est pourquoi, saignez les reins de votre entendement, soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance, mais puisque celui qui vous a appelé saint, vous aussi soyez saint dans toute votre conduite. Un jour, j'ai pris l'avion avec mon épouse vers Londres, EasyJet, et en arrivant, on a atterri et puis on a quitté nos places pour sortir. Et en quittant ma place, j'ai laissé mon portefeuille et mon passeport sur le siège de l'avion et je suis parti. Heureusement, je me suis aperçu assez rapidement dans la passerelle que je n'avais pas mon passeport et mon portefeuille. Donc j'ai fait demi-tour et j'ai marché à contre-courant. Hein, tout le monde qui veut sortir de l'avion, moi je veux entrer dans l'avion, c'est particulier. Alors poliment, légalement, J'ai fait ce que j'ai pu pour rejoindre ma place, mais forcément les gens me regardaient bizarrement. Je les gênais, donc c'était ni confortable pour eux ni confortable pour moi, mais j'ai dû le faire. Hein. C'était mon argent, mes papiers d'identité étaient là, et heureusement j'ai retrouvé et j'ai pu ensuite passer la douane. Mais tout ça pour dire qu'en fait la vie chrétienne est ainsi. Nous sommes souvent appelés à marcher à contre-courant. Et il me semble que 1 Pierre, la lettre de Pierre, est vraiment ça, un appel à marcher à contre-courant, pas dans un esprit contestataire, pas dans un esprit outrancier, mais parce qu'il y a un décalage, il va le répéter souvent, entre les convoitises charnelles, entre cette vie passée, et maintenant la sainteté de Dieu. Il termine avec cet appel, comme des enfants obéissants, « Ne vous conformez pas aux convoitises que vous y avez autrefois », quand vous étiez dans l'ignorance, mais maintenant, soyez saints. Et donc, vous voyez là l'appel à vivre à contre-courant. Soyez saints dans un monde qui ne l'est pas. Et il me semble que c'est un appel à prendre à cœur pour nous de notre époque. Il semble que nous vivons, selon plusieurs, un moment de bascule où notre société post-chrétienne devient une société anti-chrétienne. Et notamment avec l'évolution des mœurs en matière de sexualité, il y a un écart qui se creuse, qui s'est creusé entre la vision et les valeurs chrétiennes et puis la vision séculière. Et on a beau être très gentil, des bons voisins, avoir une belle musique, tout ça. À un moment, vous le constatez que la foi chrétienne devient par moments incompatible avec la pensée moderne, notamment sur les questions qui touchent à la sexualité. Je pense à l'avortement, l'homosexualité, le transgenre, le mariage, les rôles complémentaires dans le mariage. Toutes ces questions sont parfois difficiles à vivre. Et quand vous parlez à vos collègues, vos amis, vous sentez un décalage. Pour poser un diagnostic, vous savez, le médecin vous examine et il veut savoir où est un peu le seuil de douleur. 1, 2, 3, 4, 5, 1, ça fait pas trop mal, 5, ça fait très mal. Une journaliste chrétienne utilise cette image et pose la question, aujourd'hui, où est le seuil de douleur où l'orthodoxie disparaît pour ceux qui ne sont pas vraiment engagés envers Christ? La plupart du temps, le monde ne vous reprochera pas d'avoir des croyances orthodoxes sur la Trinité. Souvent, il ne sera même pas gêné par le fait que vous croyez que Jésus est le seul chemin pour aller vers le ciel. Le point douloureux, là où c'est 4, 5, la chose qui peut vous perdre votre statut social, votre travail, votre réputation, c'est le refus de capituler sur ce que dit la Bible à propos du sexe, de la sexualité et du mariage. Et je crois que oui, ça risque d'être le grand défi pour les églises et les chrétiens dans la génération à venir, et c'est déjà le cas, de vivre la sainteté, de vivre l'obéissance, de s'abstenir des convoitises charnelles, comme dit Pierre, même quand cela suscite des calomnies, des moqueries, une opposition. Évidemment, notre situation, nos souffrances, ce n'est pas du même ordre que nos frères et sœurs en Algérie, en Corée du Nord. Mais a priori, cette lettre se destine à des chrétiens comme nous qui vivent dans cet empire romain, un païen, et qui viennent de découvrir les vérités, les valeurs chrétiennes, maintenant qu'ils doivent vivre à contre-courant. Pierre écrit avant les grandes persécutions de Néron, on pense beaucoup. Donc les chrétiens ne sont pas encore complètement tous livrés au lion. Selon un commentaire, en effet, un Pierre ne dit rien sur les chrétiens souffrant physiquement pour leur foi. L'accent est mis sur la discrimination et la calomnie qu'ils subissent en raison de leur comportement chrétien. Et la calomnie, elle est d'actualité. Donc je dirais que c'est ça notre défi, de vivre à contre-courant de la culture, tout en aimant nos prochains, tout en faisant du bien, tout en restant joyeux, tout en respectant nos autorités, nous voulons vivre à contre-courant. Et donc cette lettre va aider les chrétiens à le faire, malgré les épreuves, malgré les pressions du monde autour. Et pour cela, dans notre texte, ce premier chapitre, il va mettre en avant une raison principale de vivre à contre-courant, et la raison principale notamment, c'est l'espérance. Vous pouvez vivre à contre-courant grâce à votre espérance, grâce à l'espérance chrétienne. C'est un peu l'idée clé qui revient à plusieurs reprises. Il le dit en verset 3, « Béni soit Dieu qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante. » Et après, il va parler de cette espérance vivante, cette espérance céleste. Il termine la section, verset 13, « C'est pourquoi, saignez les reins de votre entendement et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée. » Donc, ce chapitre nous appelle à porter nos regards vers l'avenir, vers le futur chrétien, cette espérance. Quand il parle du salut, dans ce chapitre, beaucoup, il parle d'un salut futur. Vous êtes gardés, verset 5, gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Ou verset 9, vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. En tant que chrétien, nous croyons que nous avons un salut complet, total, passé. Et nous vivons pour un salut futur, une délivrance future. Donc, Pierre va parler de ce salut qui vient, ce salut, cette délivrance, cette espérance à venir. Et j'aimerais vous montrer ce matin que l'espérance est une motivation puissante. J.P. Graham parlait des motivations. L'espérance est une motivation puissante pour nous aider à vivre à contre-courant. L'espérance est une motivation puissante pour la sainteté. Lorsque la sainteté est difficile, nous pensons à l'avenir, à l'espérance. Mais est-ce que c'est vraiment le cas? Est-ce que l'espérance pousse à mieux vivre? Autrefois, comme aujourd'hui, les philosophes s'interrogent sur l'utilité de l'espérance, de l'espoir. Les philosophes à l'époque disaient souvent « Espérer, c'est désirer sans jouir, sans savoir, sans pouvoir. » ça ne les intéressait pas trop. Albert Camus, l'espoir, au contraire de ce que l'on croit, équivaut à la résignation. Et vivre, ce n'est pas se résigner. Donc, pour eux, espérer, c'était voilà, repousser le problème un autre jour et puis pas trop y penser à l'actualité. Encore récemment, j'ai vu sur un plateau télé Luc Ferry dire « L'espérance est une catastrophe. » L'espérance est une catastrophe. Mais je crois que ce n'est pas une catastrophe pour nous. Bien sûr, des faux espoirs qui mènent à la déception, oui, ce sont des catastrophes. Et aussi, on peut, dans la manière que des fois les gens parlent de l'espérance, j'espère gagner le loto, donc je ne travaille pas aujourd'hui. Ça, c'est effectivement, là, c'est une catastrophe. Je pense que c'est de quoi il a en tête, Luc Ferry, et on peut appliquer ça à plein de choses. Hein. On espère que nos problèmes vont disparaître, donc aujourd'hui, on ne fait rien pour. Mais ça, c'est pas l'espérance. Mais, comme vous allez voir, l'espérance nous aide vraiment à vivre dans l'obéissance et dans la sainteté. Quand vous avez l'espérance future d'une délivrance, quand vous avez l'espérance d'un salut futur, vous pouvez endurer les choses qui sont difficiles lorsqu'il s'agit de marcher à contre-courant. Donc, comment est-ce que l'espérance produit la sainteté? Ben, c'est une histoire d'héritage, l'espérance. L'espérance, c'est une histoire de creuser, comme vous allez voir, c'est une autre image de ce texte. Et l'espérance, on va voir dans ce texte, c'est une histoire où nous avons la meilleure place. Donc, une histoire d'héritage, une histoire de creuser et une histoire où nous avons la meilleure place. Tout ça, ça va nous motiver à vivre à contre-courant. Tout d'abord, l'image qui domine les premiers versets, versets 3 et 4, c'est l'idée d'un héritage, un héritage céleste, ça notre espérance. Ici, l'image et les images que utilise Pierre s'inspirent de l'Ancien Testament. Le peuple juif, le peuple d'Israël, eux, ils ont hérité un pays promis après un temps d'exil, après un temps de voyage, après un temps d'errance, après une traversée du désert. Ils ont le pays promis était leur héritage. Et donc Pierre, quand il les salue, il les appelle des exilés, des dispersés, des étrangers. Il reprend l'image de l'Ancien Testament, de ce peuple souvent exilé en diaspora, étranger, voyageur, et il applique l'image qu'ils connaissent, qui domine l'Ancien Testament, de cet héritage d'un pays promis. Mais même le pays promis de l'Ancien Testament, vous savez, a pu connaître la corruption. Il suffit de lire les histoires de l'Ancien Testament. Le pays promis a connu la corruption, a connu la souillure et a connu la flétrissure. Donc c'est pour ça qu'il dit, verset 4, Dieu nous donne une espérance d'un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Toutes ces choses, même le pays promis de l'Ancien Testament a connu la souillure, la flétrissure et la corruption. Donc Pierre offre encore mieux aux chrétiens. Le pays promis de l'Ancien Testament, oui, il a pu connaître la souillure, même comme tout sur cette planète. Mais là, Pierre parle de quelque chose éternel, céleste. Cet héritage, c'est quoi cet héritage? Eh bien, c'est toute la vie éternelle, c'est tout le monde nouveau, c'est toute la bénédiction de Dieu qu'il appelle le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Verset 5. Vous savez, la réalité d'un héritage est très parlant pour les exilés, pour les migrants. Notre Église s'implique dans un ministère auprès des migrants, donc vous êtes plusieurs à aller parfois dans des centres de réfugiés. Et vous voyez ce qu'ils ont. Parfois, c'est touchant de voir tout ce qu'ils ont, c'est une valise, ou bien tout ce qu'ils ont, c'est ce qui entre dans une toute petite pièce. Ça, c'est tout ce qu'ils ont. Ils ont plus ou moins dû abandonner et quitter leur vie, leur héritage, leur bien pour se mettre en exil. Et normalement, des exilés n'ont pas d'héritage. Mais Pierre s'adresse à des exilés, des étrangers, des voyageurs. Ils disent, vous avez un héritage. Nous sommes des exilés, mais avec un héritage. Donc, ça aide à vivre ce temps à contre-courant. Cette espérance-là d'un héritage nous aide à vivre pas dans l'ignorance et dans les convoitises charnelles, parce que nous savons ce qui arrive. Vous voyez ça souvent, le monde et les médias, des fois, ils essaient de motiver les gens par l'alarmisme. Ils savent que si vous êtes très inquiet pour l'avenir, vous êtes manipulable, vous êtes plus sujette à des convoitises. Vous êtes inquiet pour l'avenir. C'est flagrant avec Israël dans le désert. C'est quand ils avaient peur de l'avenir, et quand ils ont oublié le pays promis à venir, que c'est là qu'ils ont convoité l'Égypte. C'est là qu'ils voulaient ressembler à l'Égypte. C'est là où ils ont fait des bêtises avec les idoles et l'immoralité. C'est lorsqu'ils oubliaient l'héritage à venir. C'est pareil pour nous. Lorsque nous ne savons pas ce qui arrive, lorsque nous n'avons aucune espérance, et ben là, les peurs s'installent, les convoitises s'installent et les commencent à faire les mauvais choix. J'ai vu une étude, et c'est vrai que notre époque est particulière après ce que nous avons vécu, Covid, la guerre en Ukraine, l'inflation, l'économie, ces choses pèsent assez lourdes sur notre monde, sur l'Europe, la France. On dit que 3/4 des jeunes trouvent l'avenir effrayant. 40% ont peur d'avoir des enfants. J'ai vu d'après une étude, de plus en plus de couples renoncent à avoir des enfants en raison du réchauffement climatique. Mais nous pouvons vivre à contre-courant parce que nous avons une espérance. C'est intéressant, plus tard, Pierre va reparler de cette espérance en chapitre 3. C'est des versets que vous connaissez, peut-être 3, 14 et 15, il cite Ésaïe, « N'ayez d'eux aucune crainte, n'ayez du monde païen aucune crainte, et ne soyez pas troublés, mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect, devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. » Donc, il cite Ésaïe qui dit au peuple, ne craignez pas ce que le monde craint, ne soyez pas effrayés. N'appelez pas conspiration ce que eux, ils appellent conspiration. N'appelez pas crise ce que eux, ils appellent crise. N'ayez aucune crainte d'eux, mais craignez le Seigneur. Et après, Pierre dit, donc, sanctifiez le Seigneur, craignez-lui d'abord, et après, vous répondez à leurs questions lorsqu'ils demandent la raison pour l'espérance qui est en vous. Donc l'espérance est très utile pour le témoignage chrétien. Notre témoignage chrétien commence par notre espérance. Et c'est ce que peuvent remarquer les gens. On peut parler, défendre notre foi avec douceur et respect lorsqu'ils commencent à voir l'espérance qui est en nous, lorsqu'ils nous voient vivre à contre-courant, mais avec espérance, avec joie. Ça, c'est l'histoire de notre héritage et ça marque notre manière de vivre. C'est aussi une histoire de creuser. Voilà ce qui va nous aider à vivre dans l'espérance autrement. Pierre passe de l'image de l'héritage à l'image de creuser, c'est-à-dire là où le métal est purifié. On passe le métal par le creuser qui est chauffé, ce qui permet de purifier le métal et de le modeler, l'utiliser. Et selon Pierre, ce que cette vie ici-bas, qui est souvent difficile, qui est parfois encore plus, parfois les difficultés augmentent pour les chrétiens, eh bien Pierre dit tout ça, c'est comme le métal qui passe au creuset. Verset 6, c'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, et résultat, la louange, la gloire et l'honneur. Donc selon Pierre, c'est ce que Dieu fait pour notre foi. Il nous laisse vivre à contre-courant, des fois avec de l'opposition, et c'est comme le creuset, tout ça pour produire la gloire, la louange et l'honneur. Donc quand on prend tout l'épître, effectivement, on voit les chrétiens qui se trouvent dans des situations difficiles, parce qu'ils suivent Jésus, parce qu'ils obéissent à sa parole. Concrètement, certains serviteurs, par exemple, doivent supporter des mauvais maîtres. Et au lieu de riposter ou de faire un mauvais travail ou de se plaindre ou de faire grève, eh bien, ils supportent, ils font un bon travail. Certaines épouses dans cette épître doivent supporter un mari difficile, peut-être incrédule ou qui ne croit pas ou qui ne marche pas dans l'obéissance. Mais ces épouses, au lieu de rendre sa vie insupportable, ces épouses gardent un esprit doux et paisible. Certaines personnes, on pense aux jeunes par exemple, quand leurs copains vont à la soirée débauchée, la soirée arrosée, la soirée idolâtre, ces jeunes chrétiens, ils ne participent pas dans le même débordement et de débauche, comme dit le verset, et donc ils se font calomnier par leur entourage, leurs camarades, leurs amis. Ça, c'est des cas concrets, je pense que c'est pas difficile à trouver l'équivalent de nos jours. Mais c'est là où l'espérance du résultat du creuset nous aide à tenir bon. On n'est pas juste, c'est pas juste Vivre chrétien, c'est pas juste être dans la galère. Être chrétien, c'est vivre des fois dans le creuset. Mais maintenant, cette image nous aide à envisager la raison et puis la suite, le résultat. C'est là où l'espérance du résultat du creuset nous aide. Ces épreuves valorisent notre foi. Ces épreuves rendent notre foi plus forte, plus précieuse, plus pure. Et c'est étonnant, il dit, regardez bien, afin que l'épreuve de votre foi, verset 7, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Et c'est votre foi qui devient sujet de la louange, de la gloire et de l'honneur. C'est vrai que Jésus mérite toute louange, toute gloire et tout honneur, mais c'est le résultat de votre foi. Votre foi sera en quelque sorte louée lorsqu'on voit toute sa beauté, toute sa pureté, toute sa force, toute sa valeur comme de l'or. En plus, le verset dit que nous sommes gardés par la puissance de Dieu. Verset juste avant. Vous êtes gardés par la foi pour le salut à être révélé dans les chrétiens, mais vous êtes gardés par la puissance de Dieu. Ça, c'est précieux. Votre foi est gardée non par votre puissance, mais par la puissance de Dieu. Quand le forgeron met la lame dans le feu, c'est dans l'espérance du résultat final, et c'est ce qu'il fait. Il va doser la chaleur. Et son but, ce n'est pas d'exploser la lame ou de la fracasser. Son but, c'est de... Oui, il va taper fort, ça va chauffer à bloc, mais il sait ce qu'il fait, et c'est que tout ça, à la fin, va produire quelque chose de très solide, très fort, ce que Dieu est en train de faire dans votre vie, en ce moment. Ça, c'est en quoi le creuset nous donne de l'espérance et nous aide à tenir des fois, à pas lâcher quand il faut marcher encore dans l'obéissance. On rappelle de se creuser. Puis enfin, j'aimerais susciter votre espérance, puis qui va produire cette sainteté en vous rappelant que tout ça, c'est une histoire où nous avons la meilleure place, vous avez la meilleure place. C'est vrai que la vie chrétienne est souvent difficile. On dit parfois c'est vraiment la galère. Nous sommes des étrangers, dit Pierre, nous sommes des exilés, nous sommes des voyageurs sans domicile fixe dans ce monde. Nous devons marcher à contre-courant. Vous savez très bien voilà, comment ça peut facilement être difficile lorsque tous les collègues, tout l'entourage pense une chose et essaie de vivre selon votre conviction chrétienne. Notamment, j'ai évoqué le cas de tout ce qui concerne la sexualité. On nous appelle tout au long de cette lettre à vivre une conduite sainte, alors que notre entourage peut faire ce qu'il veut. Pierre reconnaît que tout ça, nous le faisons sans avoir même vu Jésus. Hein. Vous l'aimez sans l'avoir vu. Ça, c'est fort hein, pour les chrétiens. Nous. Ce que nous faisons ce matin, c'est on a chanté Jésus, on aime Jésus, mais on ne l'a pas vu, on ne l'a pas vu encore. Des gens peuvent nous reprocher, mais c'est quoi votre cul tourne autour d'un... Quelqu'un d'invisible. Oui, donc c'est pas toujours facile. Pierre reconnaît tout cela, mais il veut aussi leur dire dans ce chapitre que même si c'est difficile d'être chrétien, sachez, c'est un énorme privilège de l'être. Quel privilège d'être chrétien. Et pour cela, Pierre va comparer notre situation à celle des prophètes de l'Ancien Testament et ensuite même à celle des anges. Pour dire, vous avez une meilleure place même qu'eux. Alors, parlons de ça. Déjà, les prophètes de l'Ancien Testament, c'est des grands prophètes, pour ceux qui ont écrit la Bible, des grands héros de la foi. Et Pierre parle d'eux en verset 10, dit oui, les prophètes, eux, ils ont prophétisé concernant ce salut, touchant la grâce qui vous était réservée. Ils ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Ils voulaient sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes. Donc vous voyez, ces prophètes de l'Ancien Testament, eux aussi, ils avaient un espoir messianique, ils avaient une espérance qu'un jour le Sauveur viendra, parce qu'en plus, ils avaient eu une certaine révélation. Mais ça restait un peu flou. Et comme dit Pierre, Ils ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Ils voulaient sonder l'époque et les circonstances, mais ils ne pouvaient pas les connaître entièrement, clairement. Pour eux, ça restait quand même vague et lointain. Donc, on comprend que quelqu'un, on parlait de Camus, de Luc Ferry, on comprend que des gens comme ça pourraient dire, oui, bon, c'est bien beau d'annoncer un monde nouveau, un monde merveilleux, un sauveur, mais ça reste vague, tout le monde peut dire ça, n'importe quelle religion, n'importe quel prophète peut annoncer ça. C'est vague, on n'en sait rien. Aujourd'hui, il me faut vivre aujourd'hui. Et donc, oui, en l'Ancien Testament, ça restait, on ne pouvait que sonder, essayer de comprendre, essayer de creuser, mais on n'avait pas tout. Mais maintenant, aujourd'hui, on ne peut plus dire ça. C'est ça votre privilège. Quand on parle aujourd'hui d'espérance, quand on parle d'un avenir glorieux, il y a une nouveauté depuis que l'Évangile est entré dans le monde. Il y a une nouveauté depuis que Christ est venu. Il y a une nouveauté depuis que l'Évangile est prêché par les apôtres. Les prophètes de l'Ancien Testament, ils avaient quelques notions de la souffrance et la gloire dont elles sont suivies, mais ça restait vague. Mais aujourd'hui, nous avons tout, nous avons plus. Eux, ils avaient la bande d'annonce du film, nous avons le film. C'est-à-dire, nous avons le message apostolique de la résurrection. Et nous avons le message des apôtres, comme Pierre, qui a vu les souffrances de Christ et la gloire. Et donc, ce n'était pas des notions vagues, c'était, on l'a vu, il est mort vendredi soir, il est ressuscité dimanche matin, on était 12, et puis 70, et puis 500 à le voir, et il s'est présenté à nous comme ça, il avait des marques, il a mangé du pain, du miel, tout ça. Ils avaient des faits concrets, l'histoire achevée, ils pouvaient le raconter. Et c'est ça qui change, c'est ça qui garantit l'espérance. Nous avons une meilleure place que les prophètes de l'Ancien Testament, nous avons une garantie de notre espérance. Vous voyez, il dit en verset 3, je reviens à verset 3, « Béni soit Dieu le Père, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. » Notre espérance vivante vient par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. C'est ça qui garantit l'espérance. Donc, quelque part, on est mieux loti que les prophètes de l'Ancien Testament, qui pourtant avaient la révélation directe de Dieu, ainsi parle l'Éternel, je vous dis ça, mais nous avons tout, nous avons le témoignage des apôtres et nous pouvons désormais vivre dans la certitude de notre foi et dans l'espérance. Donc ça, c'est déjà un privilège par rapport aux prophètes. Et ensuite, il dit, donc, il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous qui étiez les dispensateurs de ces choses, que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel, et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. Et là, Pierre est en train de dire, en fait, dans votre situation actuelle, avec tous les défis que c'est de marcher à contre-courant, rappelez-vous que votre situation est, en quelque sorte, est mieux que celle des anges. Il dit que même les anges désirent plonger leur regard dans les choses de l'Évangile, mais c'est comme ils sont spectateurs, mais vous êtes participants. D'ailleurs, le mot désirer, c'est très fort, c'est convoité, c'est le même mot convoitise dans deux versets plus tard. Les anges convoitent les choses de l'Évangile. Bon, on ne va pas dire que les anges convoitent dans le sens péché, comme nous. Mais cette histoire de l'Évangile, cette histoire du pardon, cette histoire de grâce, de miséricorde, d'une espérance vivante, de foi où nous ne voyons pas encore Jésus, mais un jour nous allons le voir, ben tout ça, toutes ces choses, ça les intrigue, ça les passionne, ça donne envie. Alors pensez-y, un ange du ciel échangerait volontiers de place avec vous pour vivre ce que vous vivez. Demain matin, entrer, partir au travail. Un ange dirait, oh, moi je changerai volontiers de place avec toi. Parce que toi, tu connais ce que Jésus-Christ a fait pour toi. Toi, tu as pu chanter hier, il m'a gracié, il m'a aimé, il m'a pardonné. Ah, moi, je ne peux pas chanter ça. Ils sont spectateurs, vous êtes participants. Eux, ils désirent plonger les regards, mais vous, vous êtes dedans, vous pouvez plonger les regards. Et pourtant, les anges, moi, bien souvent, j'aimerais échanger de place avec eux. Eux, ils ne connaissent pas l'épreuve. Ils n'ont pas besoin d'espérance. Ils voient Jésus. Nous aimons Jésus sans le voir. Eux, ils le voient. Eux, ils vivent constamment dans la présence de la sainteté de Dieu. J'aimerais bien vivre constamment dans la sainteté, mais j'ai du mal à vivre dans la sainteté. Alors, des fois, j'aimerais. Eux, ils ne luttent pas avec le péché. Ils ne luttent pas avec... Mais les anges ne savent pas ce que c'est d'être les objets de la grande miséricorde de Dieu. Béni soit Dieu le Père, de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés. Les anges ne connaissent pas cette nouvelle vie, cette régénération, d'espérance. C'est pour ça que Pierre dit tout ça. Il disait, rappelez-vous, quand c'est difficile, quand vous devez marcher à contre-courant, quand les convoitises charnelles font la guerre à l'âme, et c'est dur ça, eh bien, et les anges connaissent peut-être tout ça, pour ça c'est plus facile. Mais dans ces moments-là, vous êtes bénéficiaires de l'évangile. Vous avez reçu le message des prophètes et des apôtres. Et vous voyez, votre expérience va plus loin dans la grâce de Dieu et dans la personne de Dieu que peuvent connaître même les anges. Alors, ces réalités-là, Pierre veut qu'ils viennent contrebalancer les galères et la fatigue de marcher à contre-courant. Donc, une fois qu'il leur parle de cette grande espérance, cette espérance céleste, un pays promis qui est mieux que tout pays promis ici-bas, un pays promis éternel, il dit là, donc avec ça, avec ce qui vient, avec votre salut futur, eh bien, c'est pourquoi soyez sobre, c'est pourquoi soyez saint, c'est pourquoi lutter contre les convoitises, c'est pourquoi marcher à contre-courant. Mais pensez à l'espérance, ça va vous porter. Pour revenir à mon histoire de EasyJet et tout ça, pourquoi je suis retourné chercher, pourquoi j'étais prêt à marcher à contre-courant? J'aime pas faire ça en général. Pas moi qui va braver une foule qui marche dans un sens. J'ai tendance à marcher dans le même sens qu'eux. Pourquoi je suis prêt à marcher à contre-courant, à subir les regards bizarres? C'est parce que mon argent est là, mes papiers d'identité sont là, c'est là, j'ai besoin de ça. Eh bien, la vie chrétienne aussi, hein, vous êtes prêt à marcher à contre-courant, même avec les regards bizarres, même avec les calomnies, parce que votre trésor est devant vous, votre trésor est là-haut, votre identité est devant vous, est là-haut en Jésus-Christ. Et c'est ça, lorsque vous méditez ces choses-là, et lorsque vous pensez à votre espérance, vous pouvez continuer à marcher à contre-courant et rester dans la sainteté, dans l'obéissance, et même donner raison à d'autres à se joindre à vous, parce que vous avez une espérance qu'ils n'ont pas encore, et vous pouvez en parler avec douceur et respect. Que Dieu nous aide à vivre à contre-courant grâce à l'espérance. Prions.